Jean chapitre 3, s'il vous plaît, et verset 13. Et nous avons une révélation de Christ dans Jean 3. Et il y a un verset unique. Avant que je ne commence, je ne veux pas oublier, nous aurons un service particulier. Et j'ai un thème dans mon cœur que j'ai eu pendant que je priais hier soir. Et nous parlons aussi du fait d'atteindre toute la ville de Baltimore. Et nous vous montrerons un peu de la démographie de Baltimore. Et nous allons aussi imposer les mains à quelqu'un, pas pour qu'il devienne pasteur, mais pour qu'il commence une église quelque part. Donc on parlera un peu de la stratégie dans l'implantation d'église dans la ville de Baltimore et autour. Jean 3, verset
13.
Nous avons aussi un livre qui s'appelle Field Days. Tu peux reconnaître un bon livre par sa couverture. Non, c'est pas vrai. Et donc, c'est un livre que Pasteur Chaleur a écrit à partir des lettres de nouvelles qu'il a envoyées lorsqu'il était en Hongrie. Donc, c'est à vendre. Et on veut remercier Caroline qui fait un travail extraordinaire aussi dans notre café, la cafétéria. Pasteur Arto aussi fait un travail formidable avec la chorale. Taggart fait un travail extraordinaire, c'est le comptable. Il sait où chaque centime va. Pasteur Cooper, un homme vraiment formidable concernant l'évangélisation, c'est le chef de l'évangélisation. Donc Jean chapitre 3 verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Et c'est Christ bien sûr. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Au verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est en même temps dans le ciel. Donc, Jésus est dans le ciel et sur la terre. Et nous sommes la même chose. Nous sommes dans la ville de Baltimore, mais nous sommes aussi dans le ciel. Dans Éphésiens 2, verset 6. Nous sommes assis dans le ciel. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Et il a fait de vous une partie de Christ. Et Christ est assis à la droite du Père. Christ est dans le ciel, dans Colossiens 1, 27. Mais il est aussi en vous. Alors que nous sommes ici sur la terre, Dieu ne voit pas le temps et l'espace de la même façon que nous les voyons. Nous les voyons avec de la limite, des limitations, mais Dieu transcende le temps et l'espace parce qu'il habite l'éternité. Dans Ésaïe 59, 17. L'éternité n'est pas l'absence de temps. L'éternité, c'est quelque chose où tout est ensemble, différemment que dans le temps. Mais il y a des séquences dans l'éternité. mais l'éternité remplit le temps avec Dieu. Donc nous avons le présent qui est rempli de la présence de Dieu, de la pensée de Dieu. Colossiens 3 nous dit, nous pouvons tourner là-bas.
We have a record increase in our Bible college registrations. Amazing.
Et nous voulons aussi vous faire savoir que les inscriptions au collège biblique ont vraiment grandi, ainsi que les paiements en passant. Dans Colossiens chapitre 3, verset 3. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Car vous êtes mort. Est-ce que nous sommes morts? Mais pourquoi ne dit-il pas au verset 5, faites donc mourir ce qui est dans vos membres et terrestres. Faites mourir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de tuer. Mais je suis mort. Donc il est dit, faites donc mourir. Et nous avons découvert un nouveau mystère dans l'enseignement, dans la pensée de Dieu, qui n'est pas un mystère, bien sûr, mais c'est toute sa sagesse. Mais nous sommes morts, et maintenant nous sommes ici sur la terre, et nous devons faire mourir. Au verset 10, toujours de Colossiens 3, revêtez-vous de l'homme nouveau. Nous savons que nous sommes nouveaux, n'est-ce pas, dans 2 Corinthiens 5, 17. Mais maintenant, il a dit que nous devons nous revêtir de l'homme nouveau, qui se renouvelle. Voilà le nouvel homme qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Dans 2 Corinthiens 2, 16, il y a l'homme spirituel. Et nous comprenons qu'il y a deux réalités. La première, c'est que Dieu habite en moi et que Dieu devrait habiter en moi. Tournez dans Éphésiens 3, 17. Colossiens 1, 27 nous dit, la Bible dit que Christ est en vous. Est-ce que le Christ est en vous? Il est dit que l'Esprit de Dieu habite en nous. Christ est en vous. Mais dans Éphésiens 3, 17, il est dit que Dieu habite dans votre cœur. Que Dieu... Donc il y a un verset qui dit que Jésus habite en moi, et un autre verset dit que Jésus-Christ doit habiter en nous. Il nous est dit de nous saisir de la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Mais il y a un verset qui dit, saisis la vie éternelle. Si nous avons l'Esprit, nous devons marcher dans l'Esprit et être remplis de l'Esprit. Christ est sur la terre, mais je suis dans le ciel, dit-il. Je suis au ciel et sur la terre. Le croyant est en Christ, mais il doit également être un co-ouvrier. Tournez dans Romains chapitre 4, s'il vous plaît. Romains chapitre 4, et nous bénissons Dieu pour la Bible. Il y a deux personnes qui sont mentionnées au chapitre 4, au commencement. Abraham, au verset 4, et David, au verset 6. Et je vais faire maintenant un petit dessin. Voilà Abraham. Il a été promis à Abraham deux choses, un fils et un pays. Abraham a fait ses bagages et il est parti. Et il dit, où vais-je? Et Dieu lui dit, je vais te montrer. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu fait avec nous aussi. Nous bougeons, nous marchons par la foi. Abraham a cru Dieu et il est devenu un homme juste. Dans Genèse 12, par exemple, Dieu lui a parlé au sujet de la promesse. Il lui est apparu au chapitre 15, il a été circoncis au chapitre 17. Au chapitre 18, il lui a été dit qu'il aurait un fils. Et au chapitre 22, Dieu l'appelle à offrir son fils. Et Isaac devait avoir 15 ou 16 ans. Et donc, dans cette ligne de temps est importante parce qu'il y a un enseignement dans Romains chapitre 4. Je sais qu'on n'est pas dans une classe biblique, mais vous pouvez me suivre parce que vous êtes des gens intelligents et vous avez l'Esprit de Dieu. Vous avez votre Bible, vous pouvez le lire et vous pouvez l'étudier. Et vous pouvez venir à l'église et apprendre encore plus de la Bible. Donc, il y a un principe. Quand Abraham a-t-il été déclaré juste? Genèse 15, verset 6. Abraham a cru et il a été déclaré juste. Vous savez ce que la justice veut dire? Cela veut dire perfection. Pas 99%, mais 100%. Vous êtes aussi juste que Dieu est incroyable. Je suis aussi parfait que Jésus-Christ. C'est incroyable. C'est ce que vous pouvez dire de vous-même. Quand cela a-t-il pris place? Au moment où vous avez cru, il y a eu un point dans le temps. Qu'est-ce qui s'est passé après? Les choses qui se passent après ce moment où vous avez été déclaré juste ne peuvent altérer ou changer quoi que ce soit. Rien de ce qui se passe après n'est relié à la déclaration que nous sommes justes. Donc Abraham est juste, point à la ligne. Plus tard, il est circoncis. Et on voit ça dans Romains, chapitre 4, verset 10. Quand donc lui fut-elle imputée, cette justice? Quand Dieu a-t-il imputé la justice à Abraham? Quand il était circoncis ou incirconcis? Quand il était incirconcis. Avant même qu'il ne soit circoncis. Et cela veut dire, quand tu es sauvé ou quand nous devenons sauvés, si tu es baptisé après ce que nous devons faire, ce n'est pas connecté avec mon salut directement. Si j'offre mon fils, cela n'est pas connecté avec son salut d'Abraham. Si Abraham a offert son fils, cela n'était pas connecté avec le fait qu'il ait été déclaré juste. Donc nous avons deux choses ici. Le pays, cela parle d'un endroit géographique, mais Abraham avait aussi quelque chose de vertical avec Dieu. Et le fait de donner son fils nous parle de cela. Et il était un homme, Abraham était vieux quand il a eu son fils. Et Sarah, sa femme, avait 90 ans, lui en avait 100.
Il
Et les éléments de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, en fait, fonctionnent aussi pour David, à qui il avait été promis que son fils sera assis sur le trône pour toujours et pour toujours. Des siècles, des milliers d'années plus tard, un homme aveugle crie devant Jésus, « fils de David, aie pitié de moi. » Et cela nous parle de l'alliance lévitique. Et Jésus s'est arrêté, il lui a dit, « Amenez-le à moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Guéris-moi. » Et il l'a guéri. Romains 4 est un c'est un enseignement de comment en bonne santé nous sommes et comment cette bonne santé a un impact dans toutes les directions, horizontales et verticales. Romains 4 est en train de dire que Dieu est tellement riche envers nous que nous avons cette relation verticale avec une alliance avec le Fils de Dieu. Les promesses qui ont été faites entre Dieu et son Fils, il est dit qu'il parlait au sujet de tous les enfants que Dieu avait donnés à Jésus-Christ. Et nous avons une relation de justice avec Dieu. Mais nous avons aussi une relation horizontale, parce que quand Abraham a cru, il a été sauvé, et cela l'a équipé pour tout le reste de sa vie dans ses décisions horizontales. Et c'est comme avec nous. Lorsque nous sommes l'objet de la grâce de Dieu qui nous enseigne dans Tite 2:11, quand Dieu, l'Esprit de Dieu, il est dit que Christ est en nous par son esprit, mais que Christ doit habiter en nous. Parce que Dieu nous dit, venez et apprenez de moi. Prenez sur vous mon joug, car mon joug est doux et mon fardeau léger. La vie d'Abraham nous montre ici dans ce chapitre, et nous voulons le lire, que Abraham a cru. Et il a été justifié. Et après qu'il ait été justifié, il a continué de croire, bien sûr. Il y a deux principes. Il y a la justice imputée. Ça veut dire qu'au moment où nous croyons, où nous donnons notre vie à Jésus, nous devenons 100% justes pour tout le reste de notre vie. Romains 5, au début, il est dit que nous nous tenons dans la justice, dans la grâce. Nous avons une paix continuelle avec Dieu. Pas une paix avec nous, peut-être, avec notre voisin, notre femme, notre mari, mais nous avons paix avec Dieu. Parce que Dieu a décidé cela en lui-même, que tu aies la paix avec Dieu. Peut-être que tu es le seul. Avec Dieu, c'est le seul avec qui tu as la paix. Et cela ne changera pas. Et alors que nous étions ennemis, nous avons été réconciliés. Alors que nous étions pécheurs, nous avons été pardonnés. Et alors que nous étions étrangers, nous sommes introduits dans la famille de Dieu. Et alors que nous étions vides, maintenant nous sommes en lui. Et cela est garanti. Mais la Bible dit ces choses aussi de cette façon. Tu es mort, et maintenant, reconnais-toi comme mort. Tu as été fait nouveau, mais maintenant, reconnais-toi dans cette nouveauté. Tu as été pardonné, mais maintenant, reconnais-toi dans le pardon. Christ habite en toi, mais Christ devrait habiter en toi, par la foi, d'une façon expérimentale, on peut dire. Voilà maintenant une autre ligne du temps. Abraham a cru à un moment donné dans le temps. Et Dieu lui a donné la justice impartie. Et Abraham va maintenant expérimenter l'aspect extérieur de cette justice qui lui a été impartie, qui lui a été donnée. Et nous savons que la foi vient de ce que nous entendons, et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Ça va, vous me suivez? C'est presque terminé. Mais maintenant, écoutez bien cela. Chapitre 4 de Romains, verset 18. Espérant contre toute espérance, qui, Abraham, on parle d'Abraham, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Il était le père. Il a marié Sarah et il a eu aussi une femme qui s'appelle Keturah qui a donné beaucoup d'enfants. Sarah n'a eu qu'un fils, mais Keturah lui a donné beaucoup d'enfants. Mais la vraie semence pour laquelle qu'il cherchait, on sait qu'il a pris Agar d'après le conseil de sa femme. Mais on ne parle pas d'Ismaël comme étant sa semence. Abraham était dans le doute. Il avait beaucoup de questions, beaucoup d'insécurité au sujet de cette grande image. Il n'avait pas de pays non plus. Il avait juste un petit endroit où il a enterré sa femme, mais il n'avait pas de possession légale et son armée était petite, il avait 300 hommes. Il n'était pas une grande nation, il était juste un petit groupe de gens qui bougeaient dans le pays. Mais en lui, sur lui, il y avait la main de Dieu. La main de Dieu était sur lui. Et peut-être tu peux te poser la question, où est l'accomplissement de la promesse? Où sont les richesses? Où est la puissance et l'influence d'une façon horizontale, c'est-à-dire parmi les hommes? Mais Dieu va lui dire, je vais te le donner. Et Abraham, espérant contre toute espérance, alors qu'il n'avait pas d'enfant, et ça faisait 20 ans qu'il marchait selon la promesse de Dieu sans avoir vu quoi que ce soit. 25 ans. Parce qu'il a reçu la promesse à 25 ans, à 75 ans, et à 100 ans, il a eu son fils. Donc, espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, parce qu'il était près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Je ne sais pas comment la conversation est allée, mais la conversation avec sa femme pouvait être comme ça. Sarah, on va avoir un fils. Cela veut dire qu'on devrait aller au lit ensemble. Ok, allons-y. Et Sarah pourrait dire, je ne suis pas vraiment intéressé dans cela. J'ai 90 ans, tu as 100 ans. Non, je n'ai pas envie de ces choses. Ça fait longtemps. Non, ça n'arrivera pas. Mais qu'est-ce qu'il a dit d'Abraham? Espérant contre toute espérance, il a cru. Et il répond à sa femme, non, écoute, Sarah. Les anges sont venus, tu étais dans la tente. Tu as ri. Est-ce que tu te souviens de ça? L'ange a dit que nous aurons un fils. Toi et moi, nous aurons un fils. Est-ce que c'est un commentaire sur le salut? Non. C'est un commentaire après qu'Abraham soit devenu un croyant. Et cela nous parle de, une fois que nous avons été sauvés, nous avons été réconciliés, maintenant, croyons. Celui qui m'a sauvé, est-ce qu'il ne va pas me délivrer aussi? Si Dieu m'a sauvé, ne va-t-il pas aussi accomplir ce qu'il m'a promis? S'il a fait ceci pour nous, ne va-t-il pas nous remplir de son esprit et faire en sorte que son conseil et sa parole nous soient connus? Voilà ce qu'Abraham était en train de dire à Sarah. Écoute, Sarah, je sais que c'est fou ce que je te dis. Je sais que tu ne le crois pas. Et même moi-même, j'ai de la peine à le croire. Mais je sais que Dieu est dans cette promesse. On va avoir un fils. Sarah, écoute-moi, on va avoir un fils. Dieu l'a dit, et toi et moi, et c'est comme ça que ça va se passer. Est-ce que ce que je crois, au verset 19, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il était il avait près de 100 ans. En termes de reproduction, il était mort. En termes de vitalité, il était aussi bon que mort, mais il n'a pas considéré cet état, alors qu'il avait 100 ans. Et il n'a pas considéré non plus l'état de mort dans laquelle était Sarah. Et même si nous ressemblons à un cimetière, nous n'allons pas considérer cela. Et lorsqu'on considère les gens qui meurent, nous disons non, ils ne sont pas dans le tombe, ils sont au ciel. Parce que nous croyons que lorsque Dieu nous a sauvés, lorsqu'on était loin de lui, celui qui habite dans mon corps mortel, nous pouvons être délivrés du péché et nous pouvons être délivrés de nos problèmes, de notre anxiété et qui nous sommes. Et nous pouvons dire, non, ce n'est pas la réalité. Il y a une autre réalité. Et Jésus dit, je suis au ciel, mais je suis ici sur la terre. Tu es à Baltimore, mais tu es aussi au ciel. Mais tu es pourtant ici sur la terre. Et Christ habite en vous. Vous devriez vous attacher à la vie éternelle. Et malgré tous les obstacles et l'incrédulité et les évidences négatives, lorsque Ézéchiel a regardé à la vallée des os, Dieu lui pose la question, est-ce que tu penses que ces os peuvent vivre? Et Ézéchiel a dit oui, j'ai étudié à l'université. Et je peux te dire, Dieu, qu'il n'y a pas de vie dans ses os. Non, mais il n'a pas parlé de cette façon-là, car il n'était pas un étudiant en médecine. Il était un étudiant dans la foi. Et l'étudiant dans la foi va dire, tu dis, oh Dieu, tu le sais. Oh Dieu, tu le sais. Je ne vais pas prendre cela sur moi parce que je ne sais pas, mais toi tu sais. Parle-moi. Et Dieu pourrait te dire, est-ce que tu peux avoir la victoire sur ton péché? Et nous pourrions dire, oh Seigneur, non, ça dure depuis tellement longtemps. Mais nous pourrions changer de commentaire et dire, nous pourrions répondre à Dieu, oh c'est toi qui le sais Dieu. Et en accord avec ce que tu dis, est-ce qu'Abraham peut avoir un fils dans son âge avancé? Et ils l'ont eu, et ils ont eu un fils qui s'appelle Isaac. Au verset 20, il est dit, il ne douta point par incrédulité. J'aime ça. Quelqu'un a dit que Dieu est en train de tirer l'élastique d'un grand lance-pierre et que quelque chose va se passer. Et tu ne peux pas l'expliquer en termes humains. Il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur. Il y a quelques motivations que j'ai dans ma vie. Et c'est ce qu'Abraham a dit à Sarah, allez, on va aller au lit ensemble. Je ne veux pas douter de la promesse de Dieu. On va avoir un fils. J'ai cru Dieu il y a longtemps et il m'a sauvé. Et j'ai vécu toutes ces années. Et j'ai eu cette incrédulité, bien sûr, mais je crois que cela va se passer de la façon dont Dieu l'a dit. au verset 20, il ne douta point au sujet de la promesse de Dieu par incrédulité, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il... Et nous devons être complètement convaincus, persuadés. Ce matin, dans le premier culte, nous avons eu un enseignement sur Proverbe 7. C'était tellement bon. Et peut-être vous pouvez avoir le message plus tard. Proverbe 7 qui parle de la séduction de la femme étrangère vis-à-vis du jeune homme. Et jusqu'où cela va et qu'est-ce qui se passe? Mais au chapitre 8 de Proverbe, il dit que la sagesse crie dans les rues. Abraham était complètement persuadé par la sagesse. Il savait dans son cœur. C'est comme quelqu'un qui vit par la foi, qui croit la parole, qui fait des décisions par la foi, qui commence à prier par la foi. Grandir dans la prière, c'est par la foi. Et venir ici, c'est par la foi. Et faisant des décisions, prenant des décisions, c'est par la foi. Et allant évangéliser. Et peut-être certains ne sont jamais allés. Mais rencontre-nous, viens avec nous le samedi matin et tu peux aller. Et tu peux apprendre comment parler avec les gens. Et c'est quelque chose que nous ne faisons pas naturellement par nous-mêmes, mais nous le faisons par la foi. Et Abraham a dit dans son cœur, cela va arriver. Je le crois, ça va arriver. Ça va arriver, je le crois. Cela va arriver. Et c'est ce qui est dit au chapitre 5, versets 1 à 9. Mais nous allons terminer avec cela. Au verset 21 du chapitre 4, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et nous pouvons juste penser à cela. Il y a des années en arrière, il y a beaucoup de gens qui peuvent le dire, il y a des années en arrière, Dieu a mis quelque chose dans ton cœur. Et quelques années plus tard, tu peux dire oui, il l'a fait. Il y a des années, tu as commencé à croire, et plus tard, tu peux dire, oui, il l'a fait. On a vu ce matin, Pasteur Steven, dans une vidéo, il nous a enseigné, il y a des années en arrière, pensez au monde entier, et portez en vous le fardeau des âmes. Billy Graham a dit, je porte dans mon cœur, et je pense, jour après jour, Christ au sujet du monde. Chaque jour, je pense au monde et à ces hommes qui ont le monde dans leur cœur. Nous voyons que Dieu est capable d'accomplir cela, d'avoir un impact dans le monde. Mais si je n'ai pas une vision, si je n'ai pas la foi, si je regarde à Sarah et si je dis, oh, tu es trop vieille, je suis trop vieux, oublions tout ça. C'est ce que beaucoup de croyants font, malheureusement. Je ne sais pas, peut-être, je ne sais plus. Je suis occupé. Je ne suis pas complètement convaincu, mais laissons-nous convaincre. Laissons-nous complètement convaincre que des choses incroyables peuvent arriver. Parce que Jésus dit, je suis dans le ciel, mais je suis sur la terre aussi. Et c'est ce que nous sommes aussi. Nous sommes complètement convaincus que nous pouvons penser à certaines choses de différentes façons. Nous sommes ici dans l'église, dans la ville de Baltimore, et notre cœur est touché parce que de voir tous les meurtres dans cette ville de Baltimore, et je me dis à moi-même, non, le diable ne va pas gagner, nous allons prier, et j'aimerais vous demander de prier chaque jour pour la ville de Baltimore, de voir Dieu opérer un changement dans cette ville, car je suis persuadé que Dieu peut le faire, et nous pouvons lier les démons dans la rue, et que les choses deviennent en ordre, et que Dieu mette des gens qui soient capables de s'occuper de cette ville. Et bien sûr, en premier lieu, je ne regarde pas aux gens, mais je regarde à Dieu qui peut répondre à nos prières et qui peut amener de l'ordre. Et nous disons, bénis soient les gens dont Dieu est le Dieu. Nous ne vivons pas dans la crainte, nous vivons dans la foi. Nous ne courons pas après qui que ce soit. Nous courons après Goliath, nos ennemis. Et au verset 22, nous disons, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice.
And the same faith that he first believed in, he's now walking in and he's experiencing imparted.
Et la même foi qu'il avait au début, c'est la même foi dans laquelle il fonctionne. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Voulez-vous prier avec moi, s'il vous plaît?